Il est 13h dans le studio Atouradio Ndekeloka. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Tout de suite, le journal, une présentation de Inès Laure Ngopo. Bonjour Inès Laure.
Bonjour Ghislaine Berthier, Amazouda et bienvenue à tous dans cette édition. À la une, aucun cas d'Ebola n'est déclaré en République centrafricaine. Recadrage du ministère de la Santé suite à des rumeurs qui circulent. Au sommaire aussi, cette plainte des consommateurs de l'électricité en Centrafrique, les tarifs ont doublé suite aux travaux d'amélioration effectués selon l'ENERCA. Dans ce journal également, un reportage au lycée de Miskine à Bangui. Le nouveau bâtiment inauguré le 11 octobre dernier accueille déjà les élèves, un cadre qui offre un peu de confort. Football jour J-1 de la rencontre RCA Libéria à Tanger au Maroc. C'est un match comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2022.
À la une, Inès, des rumeurs de confirmation des cas de la fièvre hémorragique Ebola circulent ces derniers jours en Centrafrique.
Ces rumeurs font suite à une déclaration du ministre de la Santé la semaine dernière sur des cas de décès de 4 personnes dues à une fièvre hémorragique dans le nord de la République centrafricaine. La déclaration du ministre a été mal interprétée et cela a alimenté de nombreuses publications, tant de certains médias que des comptes privés sur les réseaux sociaux. Notre cellule Stop Athénée s'est intéressée à ce dossier. Elle nous précise qu'il s'agit d'une fausse information car aucun cas d'Ebola n'est déclaré en Centrafrique. Vianney Ngasso.
Tout est parti de la déclaration du ministre de la Santé le 11 novembre. Pierre Sompsé a annoncé 4 décès dus à une fièvre hémorragique dont les victimes sont issues des localités de Kabo et Moïnsido. Cette déclaration est très vite reprise, mais autrement par certains médias locaux et internationaux ainsi que des internautes. Plusieurs publications sur Facebook et dans les groupes WhatsApp confirment l'existence d'Ebola en Centrafrique. Vu l'ampleur de cette nouvelle, la cellule Stop Athénée s'est mobilisée pour vérifier l'information. Un membre de la cellule qui était au ministère de la Santé le vendredi dernier a profité de l'occasion pour poser la question au ministre. En réaction, le ministère de la Santé dément cette rumeur sur sa page officielle Facebook en ces termes. Le ministère de la Santé et de la Population n'a pas déclaré de cas d'Ebola. Le ministère a déclaré des cas de décès survenus dans un contexte de fièvre hémorragique sous investigation. Les résultats d'investigations conduites par l'Institut Pasteur de Bangui sont négatifs. Dans la soirée du 12 novembre, un communiqué du ministère de la Santé lu sur Radio Centrafrique dément de nouveau cette information. Le ministère de la Santé n'a jamais déclaré une épidémie à virus Ebola en République centrafricaine. Je condamne cette désinformation et les préjudices causés. Dans le futur, des faits similaires ne resteront pas impunis, précise le communiqué signé du ministre de la Santé. Après plusieurs auditions de l'élément sonore de la déclaration du ministre de la Santé, il n'a jamais évoqué des cas suspects de maladie à virus Ebola en RCA. En conclusion, l'information publiée sur les réseaux sociaux sur la déclaration des cas d'Ebola sur le territoire centrafricain est fausse.
Les dernières coupures de courant à Bangui ne sont pas sans conséquences sur le quotidien des Centrafricains.
Dans les ménages et les petites entreprises, tout le monde se plaint des heures de délestage qui ont augmenté. Quelques usagers rencontrés exigent du gouvernement le rétablissement de l'électricité. Chris Roy, Jordan Badengbe, a si on est certains quartiers de Bangui, reportage.
Ce dimanche à 10h, nous sommes dans la famille de Bernard, 6 au quartier Apili 2 dans le 2e arrondissement au sud de Bangui. Le congélateur n'est pas à sa place habituelle, il est dehors. Cet appareil électroménager est tombé en panne à cause des coupures de courant à répétition de ces derniers jours. Bernard est en colère.
Cela fait 3 jours que nous sommes dans le noir. Mon congélateur est tombé en panne à cause des délestages. 2 fois pendant une semaine, on n'a pas d'électricité. Ils doivent tout faire au niveau de l'ENERCA pour mettre fin à ces coupures.
Sa femme Marie-Louise, qui vend de l'eau glacée, est contrainte de suspendre ses activités de vente d'eau fraîche et de glace.
Avec ces coupures à répétition, je ne peux pas faire mon petit commerce de l'eau glacée. C'est ce qui me permet souvent de payer le transport à mes enfants pour aller à l'école. L'ENERCA doit faire des efforts pour nous faire sortir de cette situation.
Il n'y a pas que les ménages qui en souffrent. Les opérateurs économiques ne sont pas épargnés, à l'exemple de Malik, qui tient une poissonnerie au quartier Fou dans le 4e arrondissement. Ce matin, il a le courant, mais il ignore l'heure de la coupure.
Vraiment, ça, ça nous affecte énormément. Parce que déjà là, avec des coupures, nous on avait les stores de marchandises, on a déjà des pertes aujourd'hui. Avant que la lumière ne parte, on avait l'électricité constamment. Ce qui fait que bon, les produits ont bien congelé, comme vous pouvez le constater, j'ai le courant. Bon, on ne sait pas quelle ça va partir évidemment, c'est ça.
Pour De Bonheur Baléo, l'un des propriétaires d'un kiosque de téléchargement à Gobongo, les coupures ont impacté son chiffre d'affaires qui a baissé.
Quand on avait le courant de 13h à 21h ou vice-versa, on gagne 3 000 à 3 500 francs de recettes par jour. Mais pour le moment, c'est un peu dur. Au quotidien, on ne gagne que 1 500 francs CFA.
Les demandeurs doivent cependant patienter car l'INERCA, dans un communiqué, a annoncé l'augmentation des heures de délestage à Bangui suite à une panne, mais aussi à des cas de vandalisme enregistrés sur ces installations.
Et au sujet de ces coupures de courant, l'INERCA indique que certains quartiers du 5e arrondissement de Bangui sont pour le moment privés d'électricité en raison d'une panne survenue sur le transformateur du secteur. Panne occasionnée par les branchements illicites.
Inès, parlant toujours de l'INERCA, certains consommateurs protestent contre l'augmentation inexpliquée de la tarification constatée ces derniers temps sur leurs factures.
Oui, Bertie, les tarifs ont doublé suite aux travaux d'amélioration effectués selon l'INERCA, mais cette revue annonce de prix passe mal chez les consommateurs qui déplorent leur faible pouvoir d'achat devant cette augmentation inattendue et incompréhensible. Igor Diasnesinapay.
Lundi 8 novembre, il est 8h30. Nous sommes ici à la direction générale de l'INERCA. Nikez Ngomedo, retraité et usager de l'INERCA, vient de payer sa facture. Il est remonté contre l'augmentation du prix constatée sur sa facture du mois de septembre.
On ne nous a pas averti, on n'a pas augmenté les fonctionnaires. Et je suis venu, j'ai vu que ma facture a augmenté et je paye le double de ce que je payais avant. J'ai payé aujourd'hui 14 022 francs au lieu de 6 900 francs.
Flavien Ouluamate, qui vient aussi de s'acquitter de son devoir, n'est pas contre cette initiative. Il pointe du doigt le déficit de communication de la part de l'INERCA dans l'augmentation du coût de l'électricité.
Pour moi, avant, je payais au trop 15 000 francs de facture. Là, maintenant, je suis à 20 000, surtout à la direction générale de l'INERCA. Avant de pouvoir augmenter cette facture par rapport au kilowatt, c'est de pouvoir de communiquer aux consommateurs.
La direction commerciale de l'INERCA rejette en bloc les accusations des consommateurs. Selon Thierry Anselme René Bokossi du service de communication, les tarifs de l'INERCA ne sont pas augmentés. Pour lui, il s'agit d'un réajustement suite à l'augmentation de la production de l'énergie que consomment les usagers.
L'augmentation du kilowattheure ici touche essentiellement nos clients qui sont en branchement direct. Parce que vous conviendrez avec moi qu'ils étaient en branchement direct, ils payaient pour ceux qui sont en deux fils 6 990, ceux qui sont en quatre fils 13 980, entre 6h et 8h de temps. Avec le dédoublement de Boili 2, on est passé pratiquement de 18h à 24h de fourniture d'électricité. Ces travaux qui sont faits aujourd'hui sont faits soit avec des dons, soit avec des prêts que le gouvernement centrafricain a obtenus. Et la direction générale, à travers le ministère de l'énergie et du développement des ressources hydrauliques, a le devoir de rembourser ces prêts-là.
Selon l'INERCA, des abonnés propriétaires des cartes prépayées et post-compteurs ne sont pas affectés par cette augmentation de tarifs. Le dédoublement de Boili 2 augmente les capacités électriques de 18 à 28 MW. Il permet d'améliorer la fourniture de l'énergie dans la ville de Bangui. Depuis quelques jours, une panne technique sur les installations de l'INERCA plonge toute la capitale dans le noir.
Éducation, dans ce journal inauguré le 11 octobre dernier, le nouveau bâtiment du lycée de Miskine accueille déjà les élèves au titre de l'année 2020-2022.
Les apprenants sont heureux du nouveau cadre où le minimum y est pour leurs études. Le lycée où le début de réponse aux problèmes des infrastructures scolaires. Un reportage de Radio Ndeke Luka réalisé par Rolf Steph Domialu.
Ce matin, les surveillants demandent aux élèves en permanence de libérer les couloirs. Presque toutes les salles du bloc 1 sont occupées. Contrairement aux autres établissements, les salles de classe contiennent les élèves sans bousculement. En haut de cette porte, il est écrit 3e 2. Les quelques 70 élèves que nous voyons sont habillés de jaune noir. Le port des tenues scolaires est obligatoire selon Jean-Fabrice Bida, professeur de mathématiques.
Certaines filles portent leur haut, leur t-shirt pour venir faire n'importe quoi dans la salle. Et pour pallier à tous ces problèmes, il faut que tout le monde doive rester dans leur tenue correcte, tenue respective pour l'avancement de notre cours.
On compte 3 élèves par table banc. La salle est bien aérée, il est facile de circuler entre les couloirs. Les conditions d'études sont bonnes, Merlin Touguélé en témoigne.
Aujourd'hui, je suis ravi parce que j'ai vu l'établissement a été construit, belle, cela me pousse aussi de travailler pour aller en une classe supérieure.
Ici, au troisième étage, nous avons une vision panoramique du lycée. On peut voir, entre autres, le terrain du sport, l'administration, la bibliothèque ou encore les latrines. Toutes les conditions dignes d'un établissement scolaire sont réunies. Dieu bénisse Sina, élève en classe de 4e.
J'apprécie ce bâtiment parce qu'auparavant, il y a des problèmes des bâtiments ici. L'école, c'est notre avenir. Mais si on construit ce bâtiment, c'est pour notre bien.
Nicolas Ouarassé, censeur du second cycle, présente l'organisation des cours dans ces différentes salles.
Avec 30 salles de classe plus 16, ça fait 46. Avec mon homologue du premier cycle, les répartitions sont déjà faites. J'occupe 20 salles de classe et elle va prendre les 26 salles de classe.
Plus de 12 000 élèves sont régulièrement inscrits cette année au lycée de Miskine. La série B y est également introduite pour la première fois. Selon les responsables pédagogiques, les démarches sont en cours pour rajouter d'autres séries.
Pendant ce temps, l'école primaire Maboko na Maboko de Bosembélé dans Lombélampoko est confrontée à d'énormes difficultés de fonctionnement en ce début d'année scolaire.
Oui, Berthier, l'unique bâtiment qui accueille près de 1500 élèves, dont la majorité composée d'orphelins, manque d'enseignants qualifiés. Cette école, qui est gérée par l'église évangélique des frères, n'a que 2 mètres par rond. Au micro de Maxime Lalaï, Ambroise Dolé, superviseur de l'école primaire Maboko na Maboko de Bosembélé, appelle le ministère de l'Éducation à l'aide.
Le problème, c'est l'augmentation du cycle et puis le manque de personnel enseignant. Et puis nous lançons cet appel aussi au gouvernement aussi de penser à cette école, d'aider aussi par rapport aux anciens. Il faut des anciens qualifiés parce que ces anciens, ils ne sont pas nombreux. Il faut encore augmenter le nombre. J'encourage aussi le ministère de l'Éducation de prêter main aussi pour l'éducation des enfants.
Actualité hors de nos frontières en Libye, Saïf al-Islam Kadhafi est candidat à la présidentielle de décembre prochain.
Le fils de l'ancien président libyen Muammar Kadhafi a officiellement déposé sa candidature hier pour l'élection présidentielle libyenne prévue le 24 décembre prochain. Cette candidature du deuxième fils de Muammar Kadhafi n'est pas une surprise. Saïf al-Islam avait déjà fait part de ses intentions. La page sport, une présentation de Bienvenue Bello, bienvenue, bonjour.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
Football, Dominique Youfegan, le franco-centrafricain, a joué son premier match officiel avec Len Avon Gingap.
À 21 ans, ce gardien de but est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023. Ancien joueur de l'équipe de France U19, il est arrivé à Guingamp à 15 ans et a signé l'année dernière son premier contrat professionnel de 3 ans. Dominique Youfegan pourrait intégrer l'équipe nationale des Fauves.
Football encore, jour J-1 de la rencontre RCA Libéria à Tanger au Maroc.
C'est un match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2022. Les Fauves ont perdu samedi face au Cap-Vert 2-1. La République démocratique du Congo jouera le 3e et dernier tour des qualifications du Mondial au Qatar. Les Léopards ont remporté hier leur finale du 2e tour dans le groupe J contre le Bénin 2-0. La RDC se classe premier sur le fil. L'Afrique du Sud éliminé hier sur le score d'un 1-0 par le Ghana. Les Black Stars sortent vainqueurs car ils ont marqué 7 buts durant les 6 journées de ce 2e tour, alors que les Bafana Bafana en ont marqué que 6. Et le Ghana rejoint le Maroc, le Sénégal, le Mali, l'Égypte et la RDC parmi les barragistes qui s'affrontent en mars.
En football toujours, bienvenue. La 8e journée du championnat de la Ligue de Bangui en 2e division a pris fin hier au stade Barthélemy Bouganda.
Racing Club du 3e arrondissement RC3 a battu Jeunesse Sportive de Boeing 2-1. Samedi, Sika Sport a eu raison de Bétenestar 2-1 aussi. Aujourd'hui, c'est la trêve pour toutes les équipes.
À Bangassou, dans le Beaumont, c'est la fin hier de la première journée du championnat en senior masculin.
Sur le terrain de Tata Sayo de Bangassou, ORB a écrasé le diplôme de football club du 2e arrondissement DFC2 sur le score de 6-1. Samedi dernier, Moura a battu Trésor 1-0.
Merci à vous, bienvenue Bello. Et c'est la fin de ce journal sur la 100.9 FM Radio de Kiluka. Restez branchés pour la version en langue nationale après cette courte pause.